Notre Dieu, notre Père, apprends-nous, nous t'en prions, à regarder en haut, à regarder à toi. Au nom de Jésus. Amen. Il avait 17 ans et il était vraiment devenu un sale gamin. C'était cette espèce d'enfant gâté, inspecteur des travaux finis. D'ailleurs, c'est pas lui dans sa belle robe qui allait commencer à traire les troupeaux, c'est pas lui dans sa belle robe qui allait commencer à nettoyer les étables. Non, non. Lui, il venait voir si tout allait bien. Pourtant, il était pratiquement le plus jeune, et normalement, les plus jeunes doivent obéir aux aînés, n'est-ce pas? Non, non. Lui choisissait ce qu'il avait envie de faire. Les aînés lui demandaient de faire ceci, il disait « Non, moi, non, ça ne me convient pas. » Parce que s'il y avait un problème, il courait chez papa. Et papa prenait sa défense. Cette espèce de sale gamin qui développe un caractère d'enfant unique, pour qui le monde est son domaine et que le monde doit tourner autour de lui. C'était Joseph, un adolescent en pleine crise en plus, et qui met tout le monde en crise. Vous savez, ce genre de gens qui savent tout, qui connaissent tout, les intouchables, les propres, ceux qui donnent du travail aux autres. Il suffit d'un comme ça pour rendre l'atmosphère épouvantable dans toute une famille, dans tout un monde, dans toute une église. Joseph. Joseph a 17 ans, et puis un jour, en plus, comme si ce n'était pas suffisant, il arrive et dit, vous savez les gars, j'ai rêvé quelque chose cette nuit. J'ai rêvé qu'on était tous dans les champs et voilà que vos gerbes se prosternaient devant ma gerbe. Et je peux imaginer que ses frères ont dit, et s'ils ne l'ont pas dit, ils l'ont pensé, mon petit bonhomme, ta gerbe, tu vas bientôt la manger par les racines si tu continues comme ça. Et ils le pensaient. Quelques jours après, Joseph revient dans son beau vêtement. Et vous savez, les gars, j'ai encore fait un rêve superbe. Et voilà le rêveur. J'ai rêvé que le soleil, la lune et les étoiles venaient tous se prosterner devant moi. Ben voyons. Et quoi encore? Tu veux qu'on t'adore aussi par-dessus le marché? Bon, vous comprenez bien que Joseph s'est fait haïr de tout le monde. Oh, lui, il était bien, pas de problème. Il allait chez son père, il allait répéter tout ce qu'il avait entendu, il y rajoutait une dose suffisante pour que son père s'indigne contre les autres et lui dise « c'est bien mon garçon » et il repartait de là content avec la bénédiction paternelle. Sale gamin. C'était vraiment un sale gamin. Il ennuyait tout le monde, il s'est rendu détestable, il s'est rendu haïssable. Il était insupportable, ce gamin-là. Ses frères avaient envie de lui flanquer une raclée. Il en aurait eu besoin. Et en fait, ses frères avaient raison. Ce garçon était épouvantable, insupportable. Hautain, prétentieux, arrogant. Cependant, quand on lit l'histoire de Joseph, on n'est pas exactement à l'aise en voyant ce que ses frères ont fait avec lui. Vous vous souvenez, un jour il arrive, messager du père. Ah, voilà le rêveur, on va s'en occuper. Bon, cette fois-ci, c'est fini. Ça suffit. Stop. Et ils ne vont pas se contenter de le faire taire. Ils voudraient le faire mourir. L'un d'entre eux, l'aîné, va dire, bon, écoutez, on va modifier un petit peu le plan pour que, bon, on ne va pas aller jusque-là. Mais quand on lit l'histoire de Joseph, on n'est quand même pas à l'aise avec cette histoire-là parce que c'est vrai que c'était un sale gamin. C'est vrai qu'il était arrogant, impertinent, tout ce que vous voulez. C'est vrai. Mais on n'est pas à l'aise avec ce que ses frères ont fait à son égard. Ils avaient raison à son sujet. Mais quand on lit l'histoire, on a l'impression que finalement, ils avaient tort. Il y a dans cette histoire une leçon biblique que l'on retrouve aussi dans le Nouveau Testament, dans un autre événement qui nous est rapporté dans le livre des Actes, où l'on trouve l'apôtre Paul à l'action avec son collègue Silas. Et il est intéressant de voir dans cette histoire, que vous connaissez bien, deux aspects du caractère de l'apôtre Paul. Où d'un côté, cet homme peut exprimer une grande foi, une grande faiblesse. Vous connaissez l'histoire, elle est racontée dans le livre des Actes au chapitre 16, où il nous y dit que Paul et Silas vont se rendre dans la ville de Philippe. Ils vont aller dans un lieu qu'ils pensent être un lieu de culte pour y rencontrer des gens pieux. Et c'est là qu'ils vont rencontrer Lydie, la marchande de pourpre, qui croyait en Dieu, nous dit le texte. Ils vont lui annoncer l'évangile, le salut en Jésus-Christ. Et ils vont pouvoir baptiser Lydie et sa famille. La base, les premiers fruits de l'Église à Philippe. Paul et Silas vont continuer à prêcher. Ils vont dans les rues, ils parlent aux gens. Et voilà qu'une femme, possédée d'un démon, nous dit le texte, va les suivre et dire quelque chose d'intéressant. C'est au verset 17. Le texte nous dit, elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Écoutez, je suis toujours choqué de découvrir à quel point les démons sont capables de dire la vérité parfois, alors que les enfants de Dieu ont du mal à la proclamer. Ce qu'elle dit est absolument vrai. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu Très-Haut, ils vous annoncent la voie du salut. Fantastique, une publicité gratuite, mes amis. Les prédicateurs ne demanderaient pas mieux. Elle dit la vérité. Mais au bout d'un moment, l'apôtre Paul en a assez. Il se retourne, il menace l'esprit et libère cette femme du démon qui l'habitait. Catastrophe. Catastrophe parce que ce démon et l'activité de cette femme étaient extrêmement lucratifs pour ses propriétaires et ça rapportait de l'argent. Tout est une histoire d'argent finalement. Et comme ces propriétaires ne reçoivent plus l'argent qu'ils recevaient, ils vont faire une grosse émeute dans la ville et puis s'arranger pour que Paul et Silas aient des problèmes. Curieux comme la vérité est annoncée là. Mais cette vérité ne sert à rien, elle est annoncée par les démons. Pas par ceux qui doivent en être les porteurs. En tout cas, la ville est en émeute. On en veut après ces gens, ils viennent nous annoncer des choses épouvantables, ils sont venus pour mettre le désordre chez nous, et ils se font battre. Les juges de la ville donnent ordre de les battre. Donnez-leur une bonne raclée, ça va les calmer, on sera tranquille. Ils se font battre, sévèrement battre, et jeter en prison, et on dit « mettez-les bien en sûreté, les cèpes aux pieds qui ne bougent plus ». Paul et Silas se trouvent en prison, et vous souvenez de l'histoire, vous savez ce qu'ils font, se mettent à chanter. Moi, je ne suis pas sûr que si on me jetait en prison, je serais prêt à chanter. C'est vrai que le Seigneur nous donne sur le moment la force dont on a besoin, c'est vrai qu'ils savaient pourquoi ils étaient en prison, mais ces gens chantent. Pensez un peu à cette prison, je ne crois pas que c'était exactement une chambre d'hôtel bien garnie. À cette époque-là, ça devait être un vilain trou. Un vilain trou noir. Mais ils chantent. Et ils ne chantent pas pour eux, ils chantent pour toute la prison, s'il vous plaît. Tout le monde les entend. Pas moyen de dormir dans cette prison. Il y a des gars qui chantent. Et vous avez tous les prisonniers qui les écoutent. Qui les écoutent chanter des cantiques. Ils chantent tellement fort que ça fait un tremblement de terre. Dieu va secouer la prison. Elle va tomber en morceaux, les portes vont s'ouvrir, les chaînes vont tomber de leurs mains, les ceps vont se briser. Et le geôlier de la prison est paniqué. Parce que si les prisonniers s'en vont, c'est sa responsabilité et c'est sa vie. Et l'apôtre Paul va le rassurer, il va dire, mais non, ne t'inquiète pas, prends pas ta vie, ne va pas te suicider, c'est pas si grave que ça, on est tous là. Mais vous imaginez ces gens, ces prisonniers, vêtements déchirés, les uns saignent, les autres sont blessés peut-être, dans le noir. Pas de courant à cette époque, souvenez-vous. Et dans le noir, le geôlier fait allumer une torche pour essayer de voir où on en est. Tout va bien. Nous sommes tous là. Et devant cet extraordinaire miracle, ce geôlier est prêt à écouter ce que ces gens ont à dire. Cet homme va être baptisé, lui et sa famille. Il va reconnaître que ces gens sont porteurs d'un message extraordinaire, derrière qui est un homme extraordinaire, Jésus. Le matin, grande commotion dans la ville parce que la prison est par terre, il y a eu un tremblement de terre. Et on a vraiment l'impression que c'est à cause de ces deux hommes qu'on a mis en prison. Les juges de la ville se disent, bon, pas de risque supplémentaire. Ils envoient un message au geôlier, renvoie ces hommes. Ils n'ont pas besoin d'être renvoyés, il n'y a même plus de prison pour les garder prisonniers. Ils sont libres déjà, ils n'ont pas besoin qu'on le leur dise. Et là, l'apôtre Paul réagit. Comment ? Ils nous ont frappés, nous qui sommes romains. Ils nous ont mis en prison, nous qui sommes citoyens de l'Empire romain. Et ils nous laissent partir maintenant ? Que eux viennent nous mettre eux-mêmes en liberté. Mais enfin, est-ce qu'il n'avait pas sa liberté ? Il n'y avait même plus de prison pour l'enfermer. Il pouvait partir, il pouvait aller. Non, non, dit Paul, non, 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 non. Et c'est au verset 37. Après nous avoir battus de verges publiquement, sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Et vous voyez les juges de la ville qui viennent et disent, monsieur, monsieur, vous êtes libre. Et Paul qui parle à tête haute, libéré. Est-ce que c'était nécessaire pour l'Évangile ? Sûrement pas. Est-ce qu'il avait tort ? Pas du tout. Il avait entièrement raison. On ne bat pas de verge un citoyen romain. On ne le met pas en prison sans jugement. Paul avait entièrement raison. Mais est-ce qu'il avait raison quand même ? On pourrait dire que il avait tort dans sa manière d'avoir raison. Paul n'avait pas besoin de cette ouverture officielle de la prison détruite pour annoncer l'Évangile. Il en avait besoin pour lui, pour son orgueil à lui, pour le Saul de Tarse. Ce qui m'amène à tirer de ces deux histoires que vous connaissez, issues de l'Ancien et du Nouveau Testament, cette vérité biblique qui est frappante, qui est troublante, et que je crois vraie cependant, c'est que souvent, trop souvent, nous péchons lorsque nous avons raison, et notre action pour rétablir le droit n'apporte pas le bien. Nous péchons trop souvent lorsque nous avons raison et notre action pour apporter le droit n'apporte pas le bien. Le pasteur Schilt raconte une histoire. Un jour, un couple est venu dans son bureau. Et nous savons, nous autres les pasteurs, que quand un couple nous demande à le rencontrer, c'est généralement pas pour entendre des bonnes nouvelles. C'est généralement pour entendre de mauvaises nouvelles. Et le pasteur Schilt était prêt à entendre de mauvaises nouvelles. Et effectivement, un couple est venu dans son bureau, ce couple s'est assis et la femme a commencé. Elle a commencé à parler de son mari et à dire ce que toutes les femmes qui se plaignent de leur mari disent. Au cas où vous ne le sauriez pas, je vais vous faire la liste. Il est froid, il ne communique pas, il n'aide pas à la maison, il ne montre pas d'affection, il n'écoute pas quand on lui parle. Bon, vous pouvez rajouter la liste. Et cette femme exposait au pasteur tous les péchés de son mari. Et ce qui surprenait le pasteur Schilt, c'est que son mari, assis à côté d'elle, disait oui de la tête, reconnaissait que tout ça était parfaitement vrai. Et elle a continué à lui dire tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il ne faisait pas, tout ce qui n'allait pas. Et oui, il était d'accord, c'est tout à fait juste, c'est tout à fait vrai. Mais le pasteur a été troublé par l'attitude de ce couple. Il était tout à fait d'accord, elle avait pleinement raison. Mais la colère, l'amertume, la hargne avec laquelle elle disait ça, faisait suspecter à ce pasteur qu'en fait, le plus gros problème n'était probablement pas du côté où on pensait, où elle pensait. Elle avait raison. C'était juste, lui-même le reconnaissait. Mais où donc était le véritable problème? Finalement, on a tort dans notre manière d'avoir raison, parce que le moi qui est en nous n'est pas encore mort. Mourir à soi-même. Lorsque nous sommes morts à nous-mêmes, pour prendre cette expression que l'on connaît bien, il se passe des choses dans notre existence. Être mort à soi-même, cela veut dire en réalité que tous les aspects de notre vie sont venus sous le contrôle de Dieu par l'action de son Saint-Esprit. Et quand j'y pense, combien de manifestations, combien de protestations, combien de pétitions, combien même de révolutions ont été faites pour défendre une cause juste. Combien d'injustices ont été combattues. Combien d'insurrections ont été faites pour défendre le droit et la vérité et la justice. Alors qu'en réalité, l'agenda de ceux qui défendaient cette cause avait en tête de liste le moi, eux-mêmes, rendant ainsi la défense de cette cause tout aussi mauvaise que la cause qu'ils défendaient. Combien de révolutions? Combien de mal a été fait dans ce monde au nom d'une cause juste? L'histoire est pleine de ces causes justes défendues par le mal. Souvent, nous péchons lorsque nous avons raison. Et notre action pour rétablir le droit n'apporte pas le bien. Larry Grab, dans un de ses livres, raconte qu'une femme lui a un jour envoyé une lettre et elle le remerciait pour l'aide extraordinaire qu'elle avait trouvée en lisant ses livres. Son mari l'avait laissée du jour au lendemain, elle s'était retrouvée toute seule avec 3 enfants. Et la lecture de ses livres l'avait aidée à dépasser sa difficulté. Et Larry Grab, dans l'une de ses conférences un jour, rencontre une femme qui vient le voir et qui lui dit « Vous vous souvenez, c'est moi qui vous ai envoyé cette lettre il y a un certain temps en arrière. » Et cette femme commence à lui exposer qu'elle est heureuse, elle est contente. Elle vit bien maintenant cette situation difficile. Elle semblait rayonnante d'assurance, de paix en elle-même. Elle semblait avoir dépassé cette difficulté. Et elle exprimait son assurance et sa paix. Mais une petite lampe rouge s'est allumée dans l'esprit de Larry. Il lui a dit, mais d'où vient donc cette assurance, cette paix que vous avez expliquée, moi? Et lui a répondu, ah, mais c'est parce que Christ est suffisant pour toutes ces choses. Oui, c'est bien, je le crois, disait Larry, mais suffisant pour quoi exactement? Et cette dame lui a dit, parce que je sais que Dieu va ramener mon mari à la maison. Dieu ne veut pas que des choses comme ça se fassent. J'ai l'assurance que Dieu va ramener mon mari à la maison. Ce sur quoi Larry lui a dit, mais je n'ai aucune base biblique pour être si sûr de ça. Et cette femme, tout d'un coup, a changé de ton. La colère est montée. Elle lui a dit, mais qu'est-ce que vous croyez, vous? Vous croyez que c'est facile pour une femme de vivre toute seule avec 3 enfants? Vous croyez que c'est drôle? Vous croyez que Dieu veut ça? Pas question. Dieu va ramener mon mari à la maison, vous allez voir. Et immédiatement, cette paix s'est effondrée, cette assurance est tombée. Une colère immense est montée du tréfond d'elle. Exprimant un esprit exigeant vis-à-vis de Dieu. Dieu doit faire ça. Sinon, je n'ai pas la paix. Et ainsi, cet esprit exigeant peut se manifester de notre part, où nous demandons des autres et nous demandons de Dieu qu'il fasse ceci et qu'il fasse cela, parce que nous sommes sûrs que c'est sa volonté. Et si les choses ne se passaient pas comme nous avons pensé, que va-t-il arriver? Que va-t-il arriver à notre foi si Dieu ne fait pas ce qu'on lui demande, quand on lui demande? Notre foi va-t-elle s'effondrer? Est-ce qu'on va envoyer promener ce Dieu qui n'a pas répondu à nos exigences et pensons-nous pas accompli ses promesses? Est-ce que nous allons abandonner notre foi simplement parce que ce moi en nous n'est pas encore mort pour de bon? Un esprit exigeant. Quand Dieu appelle quelqu'un à mourir à lui-même, il l'appelle à mourir à ses droits. Et nous avons du plaisir, c'est vrai, à exiger de Dieu ce qui est juste, à exiger des autres ce qui est juste. Et en exigeant de Dieu ce qui est juste, nous pensons par là exercer notre foi. Dieu le veut, et moi aussi. Et que va-t-il arriver si les choses ne se développent pas comme nous avons pensé ou exigé? Et c'est vrai que nous aimons aussi répéter aux autres les 1001 injustices dont nous avons été les objets de part des autres, de la part de la vie. Ces 1001 injustices, ça ne vous est pas arrivé, vous aussi, de les répéter, de mettre la cassette dans un sens et quand elle est passée, de la retourner pour la remettre auto-reverse? Vous n'avez pas ça installé dans votre cerveau, vous? Moi, oui. Et nous répétons, c'est vrai, ces injustices. Et nous les répétons pour nous assurer, pour nous renforcer dans notre idée que, finalement, nous avons droit. Pour affermir notre crédibilité. Et puisque nous avons droit, alors Dieu doit. Et si Dieu doit, il va faire. Et puisqu'il va faire, je le crois. Et je crois avoir, en faisant cela, exercé ma foi. La foi de quelqu'un chez qui le moi est encore bel et bien vivant. Et si les choses ne sont pas comme nous pensons qu'elles devraient être, que va-t-il arriver? C'est finalement, encore une fois, l'exemple de Jésus qui est le seul exemple véritable à suivre. Et parmi les nombreux textes que nous pourrions lire à ce sujet, je vous en propose un dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. Nous lirons à partir du verset 8. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, battus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En proie, dit l'apôtre Paul, à mille et une difficultés. Mais aucune d'elles n'est la fin du monde. Pourquoi ? Parce que, dit-il, nous portons en nous, notre corps, la mort de Jésus. Le sacrifice, autrement dit. Le sacrifice. C'est effectivement par cela que la victoire est acquise, selon les Écritures. C'est par sa mort, en réalité, que Jésus a obtenu la victoire. C'est inconcevable, je le sais, dans notre mentalité humaine. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle beaucoup de nos contemporains ont du mal à accepter le moyen par lequel le Christ nous apporte la victoire. Cependant, le seul moyen que Christ nous a donné d'obtenir la victoire, c'est de mourir. Et dans le cas particulier, de mourir à nous-mêmes. Et c'est là probablement la plus grande difficulté que je rencontre, que vous rencontrez dans votre vie chrétienne. J'ai extrait d'un commentaire du siècle passé ces deux petites phrases. Elles sont vraies. Elles sont terriblement vraies. Si l'orgueil et l'égoïsme étaient mis de côté, 5 minutes suffiraient pour résoudre la plupart des difficultés. Les observateurs du sabbat devront mourir à eux-mêmes, faire mourir l'orgueil et l'amour de l'approbation. C'est trop vrai. Et c'est simple. Si vous voulez résoudre les problèmes, ce n'est pas difficile. Sortez l'orgueil, sortez l'égoïsme. 5 minutes, c'est suffisant, le problème est résolu. Facile à dire, n'est-ce pas? Mais c'est là la plus grosse difficulté. Sortir l'orgueil et l'égoïsme. Le moi, autrement dit. Ce serait formidable si 5 minutes étaient suffisantes pour résoudre tous les problèmes que nous rencontrons. Vous ne trouvez pas? Apprendre à faire mourir l'orgueil et l'approbation, le mour, l'amour de l'approbation. Lorsque un enfant de Dieu a développé avec son Sauveur cette relation puissante pour permettre la mort à soi-même, un certain nombre de choses se produisent. J'en ai noté quelques-unes parmi toutes celles qui sont les produits de l'action de Dieu en nous. J'en ai noté 5 qui m'apparaissent évidentes à première vue. Lorsque quelqu'un est véritablement mort à lui-même, cette personne n'est pas surprise que les choses ne vont pas aller comme elle pensait que ça irait. Elle n'est pas surprise parce que nous vivons dans un monde où l'ennemi, sachant qu'il a peu de temps, s'acharne à faire aller les choses autrement qu'elles devraient aller. Deuxièmement, lorsqu'une personne a véritablement vécu cette expérience de mourir à soi-même, elle n'est non seulement pas surprise, mais n'est pas offensée quand les choses ne vont pas comme elle aurait voulu que ça aille. Parce que l'orgueil a été tué à l'intérieur de cette personne. Lorsqu'une personne a véritablement vécu cette expérience de mourir à soi-même, elle n'est pas surprise. Elle n'est pas offensée, elle n'est pas non plus contrôlée par les choses qui ne vont pas comme elle aurait voulu qu'elles aillent. Parce que, en réalité, nous marchons selon les principes de l'Évangile et non pas au gré des circonstances et des émotions. Ce sont les principes bibliques qui nous conduisent. Ainsi, cette personne ne sera pas non plus contrôlée par les circonstances adverses. Et puis, quatrièmement, cette personne sera tellement en paix et en sécurité en Dieu qu'elle ne sentira même pas le besoin de défendre son orgueil lorsqu'il aura été touché. Cette paix, cette sécurité immense en Dieu aura enlevé ce besoin de défendre ce qui n'a pas besoin d'être défendu. C'est illustré par cette situation que vous avez probablement rencontrée. Si vous connaissez le ministre, est-ce que le gardien à la porte vous crée un grand problème quand il vous fait de la misère pour entrer? Non. Si vous ne connaissez personne, si vous n'avez pas vos entrées dans le ministère, si vous n'avez pas de connexion avec les grands patrons, il fera ce qu'il veut avec vous, ce gardien à la porte. Mais si vous avez vos entrées auprès du grand patron, le gardien à la porte, il n'est rien, finalement. Et cinquièmement, lorsqu'une personne aura vécu en profondeur cette expérience de mourir à soi-même, rien pour cette personne n'aura plus d'importance dans sa vie que de construire et que de défendre la réputation du Christ, plutôt que la sienne. Lorsque les circonstances vont mettre en péril la réputation du Christ, ce sera cette réputation-là que l'on choisira de défendre et d'honorer, quitte à ce que la nôtre s'effondre. En fait, nous sommes là en plein cœur du plan du salut. Et du livre « Christ, our righteousness », je sors ce petit paragraphe, qui prend à la lumière de ce que nous avons vu ce matin une signification bien particulière. Écoutez ceci. Qu'est-ce que la justification par la foi? C'est l'œuvre de Dieu qui conduit la gloire de l'homme dans la poussière et qui accomplit pour l'homme ce qu'il n'a pas le pouvoir de faire pour lui-même. Quand les hommes réalisent leur nullité, alors ils sont prêts à être revêtus de la justice du Christ. Et c'est vrai. C'est vrai que c'est seulement lorsque nous avons réalisé notre nullité que le Christ peut nous couvrir de sa justice. On parle beaucoup aujourd'hui des born again Christians, les chrétiens nés de nouveau. C'est très à la mode. C'est le passeport pour beaucoup de choses aujourd'hui. Et c'est ce qu'on vous demande. Est-ce que vous êtes un chrétien né de nouveau? Oui, non. C'est une carte de visite bien vue. Je suis un chrétien né de nouveau. Ça a l'air d'en dire beaucoup sur la personne. Et lorsqu'on parle de cela, on a l'impression que dans l'esprit des gens, ça veut dire qu'ils ont simplement accepté Jésus. Ou bien alors qu'ils pensent qu'ils sont tout simplement pardonnés. Ça veut parfois dire tout simplement qu'ils ont été un jour baptisés. Ou bien qu'ils ont cette assurance d'être sauvés. Je suis un chrétien né de nouveau. Mais souvent dans l'arrogance, dans la prétention des chrétiens nés de nouveau, il y a ce drôle de sentiment qu'il y a quelque chose qui manque. Parce qu'il n'y a pas un seul chrétien né de nouveau qui ne soit d'abord mort. Pas de résurrection sans mourir d'abord. Pas de résurrection pour les vivants. Lazare n'a jamais eu besoin de la puissance de la résurrection tant qu'il était malade. Ce n'est que lorsqu'il était mort qu'il avait besoin que le Christ vienne et lui donne cette vie de nouveau. Et si nous pensons être des chrétiens nés de nouveau, nous pouvons peut-être, pour le savoir, nous poser la question: est-ce que nous sommes morts d'abord pour renaître finalement. Il y a dans les Proverbes deux passages que vous connaissez bien. J'aimerais maintenant les lire avec vous. Nous les connaissons, nous les avons lus, mais à la lumière de ce que nous avons dit, j'ai l'impression qu'ils ont une connotation un petit peu différente. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Il nous est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. » Une invitation à ne pas nous appuyer sur notre compréhension, sur notre sagesse, qui décide ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est mon droit, ce qui ne l'est pas. Un autre texte un peu plus loin dans le même livre des Proverbes, au chapitre 16, et au verset 25, nous donne la même invitation. Proverbes, chapitre 16, verset 25 dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Souvent, c'est lorsque nous avons raison que nous péchons, et notre action pour défendre le droit n'apporte pas le bien. Souvent, nous péchons lorsque nous avons raison. Telle voie paraît droite, elle conduit à la mort. Cette perspective de notre vie chrétienne nous donne inévitablement une nouvelle dimension, un nouveau panorama, et nous oblige à jeter un nouveau regard sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Peut-être même un nouveau regard sur l'Église. Une manière de voir les choses qui va être fondamentalement différente et mettre les choses en perspective. Une perspective nouvelle. Un regard différent. Et j'aimerais illustrer ça par l'histoire que l'on raconte d'un petit garçon. D'un petit garçon qui voyageait en train tout seul. Et il avait un long voyage à faire. Un long voyage à travers le continent. Il y avait avec lui dans le train beaucoup d'autres gens, et au fur et à mesure que le voyage avançait, les gens ont commencé à se plaindre parce que le voyage était long, parce qu'il faisait chaud, parce que c'était inconfortable, parce que le paysage était monotone, il n'y avait rien à voir dehors, il n'y avait rien à faire dedans. Et les gens se plaignaient de ceci, de cela et d'autres choses. Et le train avançait à travers les immenses plaines. Et il y avait dans ce train un garçon, un petit garçon, qui lui semblait avoir de la joie. Sur son visage, il y avait le contentement. Et alors que tous les gens grognaient, certains se demandaient, mais comment se fait-il qu'il est content, ce petit garçon? Nous-mêmes, on trouve la chose épouvantable, et pourquoi donc est-il content? Et les gens se plaignaient, et du chaud, et du froid, et du train inconfortable, et de la longueur du voyage. Et finalement, devant le mécontentement général de ces gens, et devant la face réjouie de ce petit garçon, une femme s'est tournée vers lui et a dit « Mais enfin, tu trouves pas ça ennuyeux ce voyage-ci, toi? Comment ça se fait que tu es si content ?» Et le petit garçon lui a dit « Mais oui, c'est vrai, le voyage est long, c'est vrai qu'il fait chaud. » C'est vrai que c'est ennuyeux, mais mon papa m'attend au bout du voyage. Et je crois que notre Père nous attend aussi au bout du voyage. J'ai même l'assurance que le voyage est bientôt fini. Tout cela va nous donner une perspective totalement différente sur les embûches du voyage. Et nous permettre de mettre toutes ces choses dans une perspective beaucoup plus grande. Celle qui ressemble à la perspective avec laquelle Dieu regarde nos vies et l'Église et le monde. mon Père m'attend au bout du voyage. Amen.